Good Morning Business, le monde qui bouge, l'interview.
On a deux gros morceaux à voir avec Ulrich Bouna. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour, analyste géopolitique. Vous nous avez rejoint. Je commence par l'actualité de la nuit avec l'accord Iran-USA. Donald Trump qui dit qu'il nous faut du temps. Marco Rubio qui dit qu'il pense qu'il va y avoir peut-être un accord dans la journée. Est-ce que vous vous dites, un peu comme nous ce matin, quand Donald Trump dit qu'il faut du temps, c'est peut-être un peu positif, il change de communication?
Alors, c'est vrai que bon, sa communication est un peu erratique. Il a posté des messages qui étaient un peu plus... on va dire ambigu.
Avec l'IA, oui.
Voilà, exactement.
Sur
avec des missiles, etc. Mais effectivement, on a quand même le sentiment qu'il y a un protocole d'accord qui est en train de se mettre en place. On voit que l'ensemble des pays de la région, il y a eu cet appel de vendredi, où l'ensemble des pays de la région qui sont vraiment impliqués dans cette négociation ne souhaitent véritablement pas que la guerre reprenne. Donc il est probable qu'on arrive à un protocole d'accord pour résoudre le plus urgent, la réouverture du détroit d'Hormuz, contre probablement le levée de sanctions, etc. En revanche, sur le fond des choses, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit Marco Rubio, notamment le nucléaire qui est normalement censé être le cœur du sujet, on voit que les positions sont encore extrêmement lointaines entre Téhéran et Washington, et ça va probablement prendre énormément de temps pour arriver peut-être à un accord sur le nucléaire.
Analisa.
On a l'impression en termes d'attitude que, alors que les États-Unis ont beaucoup d'espoir, les Iraniens, eux, tempèrent. Est-ce que là encore c'est une question uniquement de communication ou c'est l'Iran qui bloque?
Je pense qu'il y a beaucoup de communication là-dedans. Malgré tout, d'un point de vue économique, les Iraniens aimeraient quand même bien avoir une levée de sanctions. Il va falloir reconstruire un pays. Les destructions coûtaient plus de 200 milliards. Ça va aussi être compliqué. Il va falloir gérer le conséquence sociale en fait de cette guerre. Donc effectivement, je pense que les Iraniens adorent laisser donner l'impression qu'ils ont tout le temps du monde. Et puis ils savent bien aussi que c'est Donald Trump qui est le plus pressé des deux. Et d'ailleurs, on le voit en fait, le fait de partir sur un protocole puis un accord, c'est déjà une victoire en fait pour les Iraniens. Dans le sens où ce sont eux qui avaient mis ça sur la table depuis extrêmement longtemps, et Donald Trump à la base voulait une capitulation. Donc partir sur ce schéma-là convient aux Iraniens, et c'est sans doute la raison pour laquelle Moshe Khamenei semble avoir donné son accord.
Parce que s'il y a bien un truc qui marche quand même sur l'Iran, c'est le blocus naval. C'est-à-dire que le fait que le pétrole ne puisse pas sortir, ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on voit que les cuves se remplissent, on va arriver à un niveau où ça va fragiliser très fortement les infrastructures.
Alors effectivement, ça fonctionne. Alors il n'est pas complètement hermétique, hein, des navires qui passent en passant par les eaux territoriales pakistanaises, mais ça fonctionne, on voit effectivement ces cuves, le niveau monter. Après, il ne faut pas sous-estimer la capacité de ce régime à encaisser des coûts, qu'ils soient militaires ou économiques. Ça complexifie bien évidemment la donne économique pour les Iraniens, mais en revanche, il est probable que les Iraniens pourraient tenir encore plusieurs semaines, et Donald Trump n'a pas ce temps-là devant lui.
Bon, on suivra évidemment ça de près. En tout cas, les bourses y croient ce matin, puisque le pétrole est retombé. On est quasiment sur le Brent à $97. On est sur le WTI à 90. Hein. Ça faisait quand même des semaines qu'on n'avait pas connu ces niveaux. L'autre dossier international, c'est la Russie, Annalisa Capellini, où il y a eu un tir de missile Oreshnik, c'est ça son nom, sur Kiev ce week-end.
Oui, et c'est tout un symbole. Pourquoi la Russie choisit d'utiliser ce missile, qui n'est pas le plus puissant de son arsenal, mais qui fait quand même partie des missiles les plus puissants qu'elle a utilisé seulement 3 fois depuis le début de la guerre. Pourquoi elle choisit de l'utiliser maintenant?
Alors, c'est un signal politique. Hein. C'est pas du tout militaire, ça n'a pas de sens d'utiliser ce genre de missile. Déjà, ils ne sont pas extrêmement précis. C'est des missiles nucléaires à la base. Donc, ce ne sont pas du tout des missiles qu'on veut utiliser sans charge utile dedans. Ça n'a pas véritablement de sens militaire. Les Russes ont des missiles qui sont tout à fait capables de faire des frappes beaucoup plus précises. Et donc, ils ne l'ont pas utilisé. Donc, c'est un signal politique envoyé sur le blast de Kiev, en plus, donc pas très loin de la capitale. Avant, ça avait été des villes en province. La Russie n'a pas beaucoup de ces missiles-là. Donc, à chaque fois qu'elle l'utilise, ça va être effectivement un signal envoyé probablement au monde entier pour rappeler, et aux Ukrainiens pour rappeler que, grosso modo, la Russie reste une grande puissance et qu'effectivement, il ne faudra pas aller trop loin dans l'aide à l'Ukraine ou que les Ukrainiens frappent le territoire russe. L'autre pendant, je pense que là, c'est plus frappant cette fois-ci plutôt que les autres fois, c'est que la Russie a besoin de rappeler à sa propre population qu'elle est une grande puissance. Si on remonte un peu le fil du temps, le 9 mai, Vladimir Poutine n'a pas pu faire son défilé. Dans la foulée, il y a eu des frappes de drones ukrainiens sur l'oblast de Moscou, la région de Moscou. Donc effectivement, il y a une grogne qui monte aussi dans le pays. Donc Vladimir Poutine a besoin de rappeler à sa propre population qu'il est un grand leader avec une grande armée.
Et l'armée russe n'avance plus du tout.
Effectivement, c'est-à-dire que pour rappeler que c'est une grande puissance, la solution la plus simple en temps de guerre serait d'avoir des conquêtes sur le terrain. C'est pas du tout ce qui se produit. L'armée russe grignote, mais c'est de plus en plus lent et de plus en plus coûteux en hommes. Donc effectivement, Vladimir Poutine est en quelque sorte obligé de s'en rabattre sur ce genre de Wunderwaffen qui sont un message politique, mais ils n'apportent pas grand-chose.
Quand vous avez vu la une du Financial Times avec Donald Trump de retour de Chine et cette déclaration remontée par des journalistes comme quoi Vladimir Poutine aurait dit aux Chinois qu'il regrettait la guerre en Ukraine, chose qui aurait été répétée à Donald Trump, vous l'avez analysé comment ?
Je suis un peu dubitatif, pour être franc. Qu'effectivement, dans le fond des choses, cette guerre qui devait durer quelques jours en Ukraine soit un boulet pour Vladimir Poutine, je pense que c'est une réalité économique, militaire. Après, ça reste quand même du point de vue du Kremlin. Il ne fait pas la guerre en Ukraine, Vladimir Poutine. Il considère ça comme une guerre contre l'Occident. Donc pour lui, ça reste quand même relativement important. Et puis c'est surtout, en fait, ce qui m'a surtout frappé, c'est que cette information soit sortie en quelque sorte au moment où Vladimir Poutine se rendait lui-même en Chine. Et ça va donner quand même un petit peu l'impression qu'il y avait une volonté de placer un coin entre Russes et Chinois dans cette espèce d'amitié sans limite qui a beaucoup de limites.
Annalisa ?
Là où on voit que tout est lié, vous parlez de polycrise, c'est que Vladimir Poutine craint l'avancée du dossier iranien et une éventuelle paix ou apaisement entre l'Iran et les États-Unis parce que ça pourrait avoir des conséquences sur le pétrole et la Russie tablait désormais sur un pétrole plus cher.
Alors effectivement, cette guerre en Iran, elle a donné une espèce de bouffée d'oxygène temporaire à la Russie qui commence à être en stagflation. Après, Vladimir Poutine, il y a ce risque-là d'avoir une espèce de grand accord qui mettrait les Russes sur le côté. C'est la raison pour laquelle il essaie en quelque sorte de revenir par la fenêtre à chaque fois en proposant de récupérer cet uranium enrichi iranien. Et il faudra voir si on n'arrive pas finalement à ce schéma-là. Et dans ce schéma-là où finalement les Russes récupéreraient cet uranium et donc en quelque sorte arrivera à se rendre indispensable aux Américains pour résoudre ce problème du nucléaire iranien, ce serait finalement peut-être pas mal géopolitiquement joué de la part de Vladimir Poutine.
Et est-ce qu'à la fin, le faiseur de paix, c'est Xi Jinping qui dit en Ukraine, ça ne sert plus à rien, en Iran, il ne faut pas aller plus loin, c'est lui qui a les cartes en main ?
Et alors, il n'a pas toutes les cartes en main, mais effectivement, il a un rôle extrêmement important. Le Pakistan, qui est l'un des principaux médiateurs, c'est grosso modo quand même un cache-nez des Chinois dans la région. C'est aussi un partenaire, la Chine est aussi un partenaire de l'Iran. La Chine permet à l'Iran et à la Russie de tenir dans cette guerre. Elle fournit alors pas des armes, mais elle fournit tout ce qui permet de fabriquer des armes. Et donc effectivement, dans ce cadre-là, finalement, Xi Jinping, plus il aide l'Iran et la Russie à tenir, plus il prolonge en quelque sorte cette guerre. Donc oui, une partie des cartes de ce qui se joue, notamment entre la Russie et l'Ukraine, se joue à Pékin. Le truc, c'est que pour Pékin, au final, même s'il n'approuve probablement pas cette guerre, il soutient en fait l'objectif russe de remettre en cause l'ordre établi.
Merci beaucoup, Ulrich Bounal, d'être venu ce matin dans la matinale de l'économie.